Ça, c'est une chanson qui s'appelait Watashi, moi-même chantée par Sumie Watsuki, et son groupe de femmes qui s'appelle Onnas Kurubos Bando. Alors, je vais passer au troisième point de lutte des féministes, c'est la pornographie dont j'avais parlé avant. Elles n'essayent pas tellement de se battre sur la porno dans les journaux, mais elles essayent de se battre sur la situation des prostituées dans les bases américaines, par exemple celle d'Okinawa, et surtout sur ce tourisme sexuel de masse qui se fait dans les îles proches. Et pour ça, l'année dernière, pour la première fois, elles ont créé un réseau de solidarité avec les femmes, avec les féministes des autres îles et surtout de Manille. Et il y a eu une réunion à Tokyo pendant que j'étais là-bas, et c'était assez génial de voir ces femmes qui n'ont en commun que la langue anglaise, mais qui arrivaient à trouver moyen de mettre sur pied une lutte aussi bien au niveau légal qu'au niveau de mini-manifestations. Il faut dire que pour les manifs, elles sont un peu trop paisibles au goût de nous, européennes. Les manifs ne sont absolument pas admises. Le Japon n'est pas un pays politique. Ce n'est pas un pays où... Non. Il y a dix ans, il y avait un mouvement politique, par exemple autour de Narita, autour de l'aéroport. Il y avait un mouvement étudiantin, un peu comme en France en 68. Maintenant, c'est vraiment complètement mort.
Alors les formes de lutte des femmes?
La plupart du temps, légalistes. Les manifestations, c'est des manifestations extrêmement paisibles, mixtes, où il y a hommes et femmes. Elles doivent demander la permission comme nous et pas comme nous, si c'est pas permis, c'est vraiment très durement réprimé. Parce que le Japon est encore plus que la Suisse une société vraiment très, très policière. On ne voit pas la présence des flics, mais c'est vraiment extrêmement répressif comme structure policière. Et de temps en temps, ce qu'elles font, par exemple, elles font des relais. Alors, il y a des femmes qui se placent tous les 2-3 km et qui courent en portant ce torchon lié autour du front qui est le signe des travailleurs. Mais sinon, moi, j'avais été vraiment choquée par les manifs des femmes là-bas qui sont plus que paisibles, vraiment.
Bon, mais c'est par exemple sur le thème de la pornographie qui a l'air d'être envahissante, comment elles luttent, comment elles essayent d'intervenir pour diminuer la pornographie, pour empêcher ce tourisme sexuel?
Pour l'instant, c'est simplement au niveau de l'information. C'est-à-dire, elles se passent entre elles des films. La plupart du temps, c'est des films faits sur la pornographie aux États-Unis, qui est malheureusement une pornographie très très différente que la pornographie qui règne au Japon. Elles avaient organisé, pour la première fois quand j'étais là-bas, des groupes qui allaient dans les magasins porno. Et mon impression à moi, quand j'avais su ça, c'était qu'on allait pour casser, quoi. Et puis non, pas du tout. On y va pour regarder, et pour regarder gentiment, sans faire aucun esclandre. Et jusqu'à maintenant, c'est effectivement rien qu'au niveau de l'information, d'essayer de faire comprendre à ces femmes japonaises qu'il y a une situation et que ça les concerne. Parce que je pense que la plupart des femmes qui ne sont pas dans le métier de la pornographie, elles ont ce même sentiment, ouais, c'est des putes, elles font ça parce qu'elles veulent bien, parce qu'elles n'aiment pas, ça ne me concerne pas. Et je pense pour l'instant, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se fait, seulement.
Mais tu disais que, par exemple, il y avait énormément d'hôtesses, donc la pornographie n'est pas limitée à un tout petit nombre de gens, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de femmes, puisqu'il y a cette profession d'hôtesse qui est très diffusée.
Oui, mais alors, ces hôtesses, elles sont soit des japonaises très très jeunes qui font ça pour gagner, elles sont mieux payées que les non-japonaises, pour gagner quand même du fric pour se marier en blanc, et elles ne veulent pas faire de scandale. Et les autres, c'est des femmes qui sont en général là illégalement, c'est-à-dire qu'elles entrent avec un passeport, avec un visa qu'on appelle un visa de kisaeng, c'est-à-dire de entertainer, pour 3 mois, et elles restent beaucoup plus longtemps. Et elles ont la même situation que les travailleurs ici qui ont un contrat pour 6 mois ou 9 mois, quoi. Elles ne peuvent absolument pas se permettre de dire ou de faire quoi que ce soit. C'est vraiment aux femmes japonaises éduquées et aux féministes de commencer quelque chose. Et pour l'instant, elles n'ont absolument pas l'idée de faire quelque chose de violent, de confrontation, absolument
pas. De radical.
Ou de radical, absolument pas.
Mais elles obtiennent quelque chose avec ces moyens doux.
Écoute, la pornographie, la lutte sur la pornographie, ça venait de commencer. Sur l'avortement, je trouve que oui, elle commence effectivement. Il y a maintenant à peu près 70 groupes, hommes et femmes, qui sont concernés par ces histoires sur l'avortement. Et je trouve que ça... le groupe Soshiren existe depuis 82, ça commence à avoir une certaine influence. Mais c'est toujours très légaliste. Ça ne va pas plus loin. Alors... Ouais, bon, par rapport à la pornographie, je voulais juste rappeler encore une fois notre responsabilité à nous, ou en tout cas à celle des hommes occidentaux et surtout des Américains qui sont là-bas, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de bases américaines. Et c'est quand même comme ça qu'a commencé la pornographie au 20e siècle, quoi. Alors, le point suivant, c'est un point qui, moi, m'avait beaucoup étonnée quand j'avais appris ça, c'est le point du racisme. Les Japonais, c'est les Aryens asiatiques. Ils se considèrent les plus blancs. Les seuls qu'ils arrivent un petit peu à respecter, à admirer, c'est les Américains blancs. Les Noirs sont très, très, très mal vus et acceptés au Japon. Et les Noirs du Japon, c'est les Coréens. Qui, dans une société qui n'a aucune violence de rue, où surtout une femme peut se balader à toute heure du jour et de la nuit sans jamais se faire non seulement attaquer ou agresser, mais même embêter par un regard ou par un attouchement, les Coréens sont les seuls qui risquent de se faire tuer dans la rue. Et je connais beaucoup d'artistes, chanteurs et chanteuses, créatrices qui sont coréennes ou qui viennent d'une famille coréenne, qui changent leur nom et qui taisent leurs sources coréennes, parce qu'elles savent qu'elles ne seraient absolument pas acceptées. Et pour ça, je vais vous faire entendre la chanson d'une femme. Elle s'appelle Rabi. C'est une des meilleures chanteuses japonaises. Elle chante, je crois, depuis une dizaine d'années. Et c'est seulement récemment qu'elle a admis publiquement dans ses chansons qu'elle était d'origine coréenne. Et elle chante une chanson qui s'appelle 13 et demi en français. En japonais, ça donne Jusaen Gochusen. Ça raconte l'histoire. En 1923, il y a eu un énorme tremblement de terre. Là, le Japon étant une terre avec beaucoup de volcans et beaucoup de séismes, où il y avait eu beaucoup, beaucoup de morts et beaucoup de destruction. Et il y avait eu plus de 6000 Coréens qui avaient été tués en 2 jours dans les rues parce qu'on pensait qu'ils allaient empoisonner l'eau. Et il y a un test qu'on fait aux Coréens et aux Coréennes dans la rue, quand il y a des poivrons le soir qui ont des envies de tout casser. Ils demandent à des gens qui ont l'air coréen de dire 13 et demi, qui se dit Jusaen Gochusen en japonais, mais qui se dit Jusaen Kochisen en coréen. C'est-à-dire les Coréens n'arrivent pas à prononcer exactement ce mot-là, ça les trahit. Et après ça, on les tabasse. Alors Rabi va chanter 13 et demi.
Hito ga boshi o ageru, yobigoe ga kikoeru. Tashika kochi muite, nikoyaka ni warai kakeru.だけど、知らんぷりしてすれ違う身を守るため、
Moi, il y a une chose qui m'étonne beaucoup en t'entendant parler, c'est toutes ces facettes très contradictoires de ce Japon dont tu parles. Par exemple, quand tu parles du porno, tu dis le porno est très très présent, le porno il y en a partout, il y en a dans tous les journaux, il y en a dans tous les bars. Et puis en même temps, tu dis, mais nous les femmes, toutes les femmes, on peut se promener sans être soumises à aucune violence, sans être soumises à aucun regard. Alors pour moi, c'est très bizarre, puisque le porno, c'est par excellence la mainmise du regard sur les femmes. Alors comment ça se fait que les hommes se croient permis de pouvoir regarder les femmes dans leur intimité la plus forte, dans des lieux réservés, mais dès que c'est la rue, alors là, il n'y a pas de regard. Ça m'étonne.
Écoute, effectivement, moi, ça m'étonnait beaucoup, ça continue à m'étonner. Je ne suis pas sûre que je comprends. Hein. J'ai l'impression qu'il faudrait une dizaine d'années d'habiter là-bas avant que je commence à comprendre, parce que c'est vraiment une mentalité totalement différente. Je peux simplement essayer de deviner. Par exemple, c'est des îles, et c'est des îles qui ont de tout temps été surpeuplées. Alors je pense que l'interdit de se regarder les uns les autres, et pas seulement les hommes regardant pas les femmes, mais simplement de se regarder dans les yeux, de poser le regard sur les autres, c'est une façon de préserver son espace dans un endroit qui est surpeuplé. Les rues, au bout d'un moment, je crois que pour nous, occidentales, c'est vraiment insupportable. Tu es tout le temps dans une marée humaine. Je crois que pour les Japonais, il y a la vie extérieure et la vie intérieure. Pas seulement familiale, mais vraiment intérieure. Alors la vie extérieure, c'est une vie codifiée, rigide, faite de politesse, où tu ne montres absolument rien, où tu ne touches jamais, même par erreur. Même dans cette foule humaine, les gens bougent en louvoyant sans jamais s'effleurer. Où effectivement, il n'y a jamais, un touchement. Dans les bars, j'ai l'impression que les femmes sont là, nues et offertes, mais qu'en fait, les hommes ne les regardent pas vraiment. Ils passent leur temps entre eux à se saouler, simplement servis par ces femmes. Et je crois que c'est parce qu'au Japon, les femmes sont des servantes. Et c'est pour ça que la pornographie, c'est une pornographie masochiste, passive, de servante. qui est là, pas comme la femme pornographique occidentale avec des grands seins, un peu castratrice, séductrice, où tu sais jamais exactement si elle va te manger ou bien si elle va se donner à toi. Là, c'est vraiment, elle est même pas offerte, la femme japonaise. Elle est là, tu en fais ce que tu veux, elle est vraiment un objet.
C'est le décor.
C'est vraiment la servante, la geisha. C'est en général pas des femmes avec qui on couche d'ailleurs. C'est des femmes qui sont là pour t'entretenir, pour te donner les petits plats à manger, même avec les baguettes, te les mettre dans la bouche, te servir du thé, te chanter une chanson, danser un petit peu et être belle et tais-toi. C'est ça. Et je pense aussi que cet effort de ne pas montrer les émotions quand tu es à l'extérieur, quand tu es avec beaucoup d'autres gens, fait que les Japonais, et je crois les Japonaises aussi, quand ils sont dans la plus stricte intimité, et je crois toujours en silence, il y a une éruption d'émotions, où il y a à ce moment-là beaucoup moins de tabous, beaucoup moins d'interdits au niveau de l'érotisme, au niveau de la sexualité, que ce que nous on a. Je crois qu'ils se permettent beaucoup plus de vivre leur fantasme. Seulement, le Japon d'aujourd'hui, c'est aussi un Japon qui a été influencé par les États-Unis, ce qui fait que le pornographisme qui se passait avant dans leur tête ou qui se passait dans leur vie privée se retrouve affiché dans ces centaines et centaines de journaux pornographiques.
Mais comment ça se fait que, par exemple, tu disais, on n'ose pas se promener en chemise courte en été, on n'ose pas avoir un décolleté. Alors, il y a cette espèce de pudeur dans la rue et on affiche la nudité dans les bistrots, dans ces bars. Comment ça fait partie alors de la même contradiction ?
Ben, c'est-à-dire
intérieur, extérieur.
Par exemple, je pense que pour la plupart d'entre nous occidentales, c'est pas vrai pour moi, mais enfin, je pense que le kimono, on pense que c'est absolument pas sexy, hein. Ça, c'est pas révélateur. Je pense que pour les Japonais, les Japonaises, c'est extrêmement érotique, par exemple. Les photos que j'ai vues de ces femmes dans les hôtels, dans les bars, qui sont en général nues avec des talons hauts et un espèce de petit tablier devant, elles sont tellement ridicules que je ne pense pas qu'elles soient vues comme objet sexuellement désirable. Elles sont simplement offertes, elles sont là. Tu peux, si tu veux, en faire ce que tu veux. C'est presque le symbole plus que la réalité qui compte, je crois. Et effectivement, dans les bars les plus chics et les plus chers, c'est des Japonaises, c'est jamais des Coréennes ou des Philippines, c'est des Japonaises dans les kimonos anciens qui essayent d'imiter les geishas. Et je dis imiter parce que les geishas, c'est en général des femmes qui ont été élevées par des mamasan depuis l'âge de 6 ans, formées pendant environ 15 à 20 ans et qui resteront geisha jusqu'à leur mort, c'est-à-dire bien au-delà du moment où elles sont sexuellement désirables. Et ces photos de ces femmes ligotées et écartelées, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'elles ne peuvent pas se défendre. Plus que au niveau physique, la photo, les Japonaises sont en général des femmes très 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 menues, avec un corps qui pour nous serait un corps d'enfant, avec presque pas de seins. C'est pas l'idée qu'on se fait, nous, de ce qui est érotique ou même pornographique au niveau de la photo. Par contre, il y a, par exemple, des journaux pornographiques pour très jeunes où on leur explique dans des détails ahurissants comment faire l'amour, par exemple. Alors qu'en fait, il y a très 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 peu de relations sexuelles entre gens hétéros non mariés.
Des adolescents.
Ouais. Et c'est seulement, je me promenais un soir avec une copine féministe et il y avait devant nous un jeune garçon et une fille qui s'enlaçaient et elle disait, il y a 5 ans on n'aurait pas vu ça. Moi je suis pas capable de faire ça dans la rue par exemple.
Mais alors, est-ce qu'il y a, tu disais, on n'a pas peur de se promener dans les rues, ce qui n'est pas le cas en général dans les pays occidentaux. Est-ce qu'il n'y a pas cette violence dans la rue, ces viols, ces attaques de femmes ?
Absolument pas. Il y a depuis un an et demi un centre pour les femmes violées à Tokyo. Et la plupart des femmes qui viennent sont des femmes qui ont été violées par des copains ou par des maris. Il n'y a pas de statistiques sur le viol au Japon, naturellement, mais de ce qu'en disent les féministes et les femmes qui sont d'accord de parler, le viol dans la rue est pratiquement inconnu, surtout le viol par inconnu. C'est vrai que, bon, moi, surtout en tant que blanche, j'étais hors d'atteinte, hors limite, mais tu peux te balader, il n'y a pas de quartier interdit dangereux, il n'y a pas d'heure dangereuse. Par contre, il y a une très forte tradition qui dit que la femme seule ne se promène pas. Ce qui fait que, de nouveau, même mes copines féministes tombaient des nues quand j'allais seule à la plage pendant la journée. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas dangereux, mais ça ne se fait pas. Alors c'est ça, de nouveau, une de ces contradictions. Une autre contradiction, par exemple, pour moi, c'était le monde des lesbiennes. Dans cette société où les hommes sont d'un côté et les femmes sont de l'autre, mais où la plupart des femmes sont mariées, j'ai découvert que Tokyo était une des capitales de l'homosexualité et surtout une des capitales des femmes lesbiennes, mais en même temps cachées. Il n'y a pas, ou plutôt il n'y a plus, de groupe de lesbiennes actifs au Japon. Il y a quelques groupes. Quand je dis groupe, je dis des 3-4 femmes qui se rencontrent pour faire des groupes d'autoconscience ou des massages. Il y avait jusqu'à 1981 un journal qui s'appelait Mainichi Daiku, qui jouait sur le jeu de mots Daiku, qui ressemble à Daik, lesbienne en américain, et qui veut dire aussi menuisier, et Mainichi tous les jours, mais qui s'est arrêté par manque de fonds. Et la plupart des lesbiennes, et elles sont nombreuses, qui sont actifs dans le mouvement féministe, ne revendiquent pas leur lesbianisme comme instrument de lutte avec les autres féministes ou bien même en dehors du mouvement féministe. La plupart du temps, soit elles se cachent, soit simplement elles se taisent, disons. Tout le monde le sait, mais ce n'est pas un instrument de lutte. Et ça, pour moi, c'était de nouveau assez surprenant. Par contre, dans Shinjuku, qui est un des quartiers où il y a beaucoup de bistrots, il y a un foisonnement de boîtes à femmes où des femmes mariées viennent le soir s'acheter une jeune lesbienne pour la nuit. Il y a par exemple une troupe qui s'appelle Takarazuka, qui est une troupe d'environ 150 très 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 jeunes femmes qui possèdent le plus grand théâtre de Tokyo depuis 100 ans, dans lequel elles font journellement, 2 fois par jour et 3 fois le dimanche, une revue genre Lido de Paris, où elle raconte, je sais pas, les mille et une nuits, et où la moitié des femmes tiennent les rôles masculins, toujours. Elles ont les cheveux courts, elles sont... Ouais, elles ressemblaient presque à ce qu'on pouvait appeler avant des Jules. Et le public est à peu près à 99% féminin, et pas seulement des jeunes, mais des familles entières, la tante, la grand-mère, la mère, la fille et la petite-fille, qui viennent là pleurer, qui connaissent par cœur toutes les chansons, qui attendent les stars de ces groupes à la sortie. Et il y a effectivement comme ça une espèce de lesbianisme latent chez toutes ces femmes. Il y a une énorme littérature qui décrit, écrite par des hommes d'ailleurs la plupart du temps, qui décrit des rapports amoureux entre les femmes. Mais, de nouveau, ce n'est pas revendiqué, ce n'est pas une lutte. Et on en a beaucoup discuté ensemble avec des féministes. Elles posaient beaucoup, beaucoup de questions sur ce qui se passait avec les lesbiennes féministes ou les lesbiennes politiques en Europe. Et ouais, elles étaient plus que curieuses. Je crois qu'elles étaient un peu envieuses aussi. Mais de nouveau, c'est cette société est presque archaïque. Elles ne se sentent pas la capacité, le courage, la force, l'espace de commencer à lutter comme ça.
Mais est-ce qu'il y a un espace pour vivre comme lesbienne? C'est-à-dire, tu peux vivre avec ta copine, tu peux louer un appartement, tu peux travailler, trouver un travail et en affirmant que tu es lesbienne, ou est-ce que tu dois le cacher? Est-ce que tu dois te marier? Est-ce que socialement, les lesbiennes ont le droit de vivre?
La plupart des lesbiennes sont mariées. La plupart des femmes ne peuvent pas vivre seules, simplement parce qu'il y a un problème de logement énorme et que Tokyo étant la ville la plus chère du monde, trouver un logement, même minuscule, toute seule, est à peu près... c'est impossible financièrement et aussi ce ne serait pas admis. Donc la plupart des jeunes lesbiennes vivent dans leur famille et sortent de leur chambre par la fenêtre la nuit pour aller dans les bistrots où elles rejoignent leurs copines. Et puis la plupart, effectivement, au bout d'un moment, elles se marient. Il y a très très peu de lesbiennes qui sont en général des féministes. La plupart d'entre elles sont aussi parmi la très faible minorité de femmes éduquées, de femmes avec un background universitaire, qui peuvent se permettre financièrement et socialement d'avoir un endroit à elles et un boulot où elles sont totalement indépendantes. Non, je trouve que les seuls espaces, c'est des espaces qui ressemblent aux anciens bars de lesbiennes qu'on a nous, quoi. Il n'y a pas un espace féministe, il n'y a certainement pas un espace ouvert. Il n'y a jamais eu de manif ou de moment où les lesbiennes sont sorties de leur placard au Japon. Ça, c'était encore une chanson de Sumie Iwatsuki, ma copine féministe. C'est une chanson qui est un peu la mascotte des lesbiennes féministes. Elle dit « Ensemble, on va se tenir chaud. Ensemble, on est bien. Ben, » j'aurais encore pas mal de trucs à vous raconter sur le Japon, mais l'heure est presque finie. Vous raconter les petits rituels, les fleurs de cerisier, les souleries, les fêtes de femmes... une grande vitalité malgré tout. L'impression aussi que peut-être en 1986, quelque chose va changer pour les Japonaises et pour les autres féministes du Sud-Est asiatique, puisque après la conférence sur la santé des femmes qui a eu lieu en juillet dernier à Amsterdam, les représentantes féministes japonaises ont décidé qu'elles allaient essayer d'organiser elles la prochaine conférence santé des femmes, en essayant d'inviter naturellement un maximum de féministes du Sud-Est asiatique, ce qui serait une première pour elles, la première fois que des féministes qui sont presque de pays ennemis, en tout cas de pays avec des relations colonialistes, vont se rencontrer et essayer de construire un réseau. Mais aussi, pour nous, féministes occidentales et américaines, ce sera une occasion d'aller, si on a le fric, là-bas, pour essayer de comprendre et d'apprendre un petit peu comment elles réfléchissent et quels sont leurs problèmes à elles. Parce que, bon, moi, j'avais pas mal de révoltes de voir et comment les femmes étaient et comment les féministes réagissaient. Mais au bout d'un moment, je me disais aussi que, bon, leur vécu est vraiment totalement différent qu'elles essaient depuis 14 ans, comme nous, on essaie depuis 14 ans. Et que peu à peu, les choses changeront là-bas aussi. Alors maintenant, pour finir, je voudrais vous faire écouter un morceau de Shakuhachi, c'est la flûte. Une flûte qui a le son du vent.